retrouve Stéphane Davet pour nous parler du ciel du mois de juin 2023. Bonjour Stéphane.
Mais bonjour Victor.
Première question, peut-être inhabituelle. On est l'été, on a beaucoup plus de soleil, donc beaucoup plus de luminosité. Mm-hmm. Mais par rapport à l'atmosphère, est-ce que c'est plus facile d'observer le ciel l'hiver ou l'été ? Je pense à l'humidité.
Alors effectivement, c'est plus simple, c'est une meilleure qualité l'observation l'hiver, évidemment, puisque le ciel, déjà le ciel, il y a beaucoup plus de noir, hein, et la nuit dure beaucoup plus longtemps, ça c'est une chose, mais également, il y a moins d'humidité dans l'air, justement, l'hiver, et donc la qualité du ciel est bien meilleure l'hiver que l'été.
Alors voilà pour l'introduction. Donc le soleil se couche de plus en plus tard.
Eh oui, il se couche à la moitié du mois de juin vers 21h30. Et donc il faut commencer à observer, disons 22h, 22h30. 22h, on peut observer, le ciel est encore un peu clair, mais on peut déjà observer les premières planètes éventuellement. Et puis ensuite, pour le ciel profond, c'est autour de plutôt de 10h30, voire même 11h des fois.
La Lune, et on le découvre mois après mois, toujours en début de mois, la pleine Lune.
Toujours en début de mois, mais toujours plus tôt en début de mois, là, le 4 du mois, avec une nouvelle Lune le 18. Et donc, on peut, pour observer le ciel profond, ça sera à partir de la mi-juin.
Nouvelle Lune égale Lune noire.
Exactement. Donc, il ne nous perturbe pas les observations du ciel profond. On a besoin d'avoir un ciel très noir, justement, et donc ce qui n'est pas possible d'avoir lors des phases de pleine Lune, notamment.
Au niveau des planètes ?
Alors, les planètes, eh ben, on parlait tout à l'heure, justement, de ce qu'on peut voir juste après le coucher du soleil. Ben, il y a Vénus et Mars qui se trouvent là, durant le mois de juin. Visible, et c'est un assez joli balai que ces deux planètes vont faire durant le mois de juin.
Au crépuscule ?
Au crépuscule, exactement.
Saturne se lève en deuxième partie de nuit. Hein.
Voilà, et elle est suivie de près de Jupiter. Donc les deux grandes planètes, elles se lèvent aux alentours de 2h30, 3h du matin pour Saturne, suivie à 4h, 4h30 par Jupiter.
Donc les couches tard vont voir Mars et Vénus, et les couches tôt, Saturne et Jupiter.
Exactement.
Donc le lever toujours à l'est. Hein.
Oui, absolument. Ouais.
Et le coucher, donc Mars et Vénus plutôt à l'ouest, et oui. Puis Jupiter et Saturne plutôt à l'est.
Voilà, ça varie un petit peu évidemment, mais c'est dans cette direction-là qu'il faut regarder.
Et dans le sens du Soleil, donc la trajectoire du Soleil.
Exactement, oui. Les planètes suivent toujours le Soleil sur ce qu'on appelle l'écliptique, cette ligne que suit le Soleil dans le ciel. Ben, les planètes, elles vont toujours se trouver là, dans cette même région de l'écliptique.
Au niveau des constellations, est-ce qu'il y a des constellations intéressantes à voir au mois de juin ?
Alors, il n'y a pas des constellations intéressantes, en tout cas pour le mois de juin, c'est le début de l'été, hein, le 21 juin c'est le début de l'été, donc on est encore à la fin du printemps, on a des constellations qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas forcément les plus brillantes, je parle bien évidemment des constellations qu'on regarde au sud, à peu près au 15 du mois de juin.
Et qu'on ne voit pas forcément l'hiver.
Et qu'on ne voit pas forcément l'hiver, alors c'est clair que si on attend 3h du matin, on va avoir d'autres constellations, évidemment. Là, on parle de qu'est-ce qui se passe quand le soleil s'est déjà couché autour des 11h, le 15 juin, qu'est-ce qu'on a au sud ? C'est toujours un peu ça dont on essaie de parler. Et on a, on a une constellation du zodiaque, la constellation des balances, qui est une constellation qui est assez faible, hein, qui n'est pas une constellation avec des fortes étoiles. On en a une qui s'appelle Zuben El Genoubi.
Il vient d'où ce nom ?
Alors, en fait, ce sont souvent des noms qui viennent de l'arabe, parce que c'est souvent des dénominations anciennement que les Arabes avaient donné aux étoiles. Et puis, ça traduit justement ce que je viens de dire, c'est que initialement, cette constellation de la balance n'existait pas en soi, c'était un prolongement de la constellation du scorpion. Et en fait, c'était les pinces du scorpion qui constituaient la constellation de la balance. C'était donc une très, très grande constellation. Et ensuite, on l'a séparée. On a séparé les pinces de la bête du scorpion. Et on a appelé ces pinces, on les a appelées du coup les balances. D'ailleurs, le nom de cette étoile signifie la pince du sud. Donc effectivement, les noms des étoiles ont gardé l'origine des pinces du scorpion, ont gardé leur origine, le nom d'origine qu'ils avaient quand ils étaient encore considérés comme les pinces du scorpion. Ça, c'est intéressant ici.
Des autres constellations.
On a aussi la constellation, une petite constellation, mais assez jolie à observer, assez facile à observer, c'est la couronne boréale. On a une étoile Alpheca qui est la plus brillante de cette constellation. En fait, c'est comme une petite couronne, un petit arc de cercle, si on veut, qui se trouve dans le ciel. Et Alpheca, c'est une étoile qui est assez brillante, qui est un des joyaux de cette fameuse couronne boréale. Et puis, elle a aussi la caractéristique d'être une étoile binaire, assez connue, en fait.
Boréale, ça veut dire au nord?
Exactement, parce qu'il y a aussi une couronne australe.
Qu'on
ne peut pas voir depuis nos latitudes, mais qu'on peut observer depuis l'hémisphère sud.
Donc étoile binaire, on reviendra après, on a un petit chapitre sur ces étoiles particulières, enfin pas tellement particulières. Au niveau des phénomènes astronomiques intéressants.
Alors on a quelques phénomènes intéressants au mois de juin. Le 14, on a un joli rapprochement de la Lune et de Jupiter. Donc ça se déroulera juste avant le lever du soleil.
Alors cette fois, je la fais à l'envers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Lune, peuvent regarder Jupiter, la Lune est à côté.
Voilà, exactement. Le 21 du mois, on a évidemment le solstice d'été à 14h58 précisément. Donc on va passer à 14h58 du printemps à l'été. Donc ça sera le premier après-midi du premier jour de l'été.
Et c'est là qu'on aura donc la journée la plus longue.
Exactement.
Et c'est là qu'on va commencer à perdre des minutes.
Exactement, c'est tout à fait le cas.
Bon pour le moral.
Voilà. On va déjà commencer à perdre des minutes. On a l'impression qu'on vient de commencer à aller en gagner, et bien finalement... Voilà.
Exactement.
Ensuite, on a le 22, aussi un beau rapprochement entre la Lune et Vénus, vers 2h30 du matin. Le 27, maximum de l'essaim des Bottides, c'est que l'AP, c'est-à-dire l'endroit d'où vont sembler venir ces astéroïdes, sera la constellation du Bouvier, Bottes signifiant le Bouvier.
Donc encore une surprise, enfin, ça n'est plus une maintenant, mais donc chaque mois, il y a un essaim, chaque mois, on peut faire des vœux.
Oui, effectivement, chaque essaim a un certain temps dans le ciel aussi, une certaine durée. Il y a même des mois où certains essaims se chevauchent même. Donc ici, par exemple, pour cet essaim-là, on a environ une dizaine de jours d'observation possible. Donc on donne toujours la date exacte, c'est la date du maximum. Et puis grosso modo, si c'est 10 jours de durée, c'est-à-dire 5 jours avant et 5 jours après, on peut observer des étoiles filantes.
Alors on va revenir à ce chapitre étoiles binaires, parce que la particularité, donc nous on a notre étoile, c'est le Soleil, on est seul, mais la particularité, enfin la majorité des étoiles dans l'univers ne sont pas seules, il y a un, deux, voire plusieurs compagnons, donc étoiles binaires, comment ça se fait ça?
Bah effectivement, c'est à cause de la manière dont les étoiles se forment. On avait déjà expliqué ça dans les émissions précédentes, c'est que les étoiles naissent dans des espèces d'énormes nuages de poussière et de gaz, et donc il n'y a jamais une étoile qui naît. C'est toujours des centaines d'étoiles qui naissent en même temps.
Une pouponnière.
Dans une sorte de pouponnière, ils sont dans un grand nuage de poussière et de gaz. Et donc, ces étoiles, elles ont, du fait de la gravité, elles ont assez tendance à se mettre ensemble, en fait. Et donc, le Soleil, en fait, est un cas particulier. La majorité des étoiles sont des étoiles multiples, c'est-à-dire soit 2, soit 3, soit 4, soit même plus encore de compagnons.
D'ailleurs, c'est le cas de Alpha du Centaure, qui est l'étoile la plus proche, hein, Proxima du Centaure, qui est un système triple. Hein.
Exactement.
Avec deux étoiles similaires un peu au Soleil et puis une petite naine brune. Hein.
Exactement. Et ces étoiles, en fait, elles sont assez bien étudiées parce que pendant longtemps, c'était une des manières d'essayer de déterminer les tailles des étoiles ou la température des étoiles ou des caractéristiques des étoiles. Parce que lorsqu'il y avait des étoiles binaires et puis que par chance, ces étoiles se passaient l'une devant l'autre quand elles tournaient ensemble, ben, ça permettait, lorsque une étoile occultait l'autre, de pouvoir avoir finalement la lumière que de cette première étoile, et puis ensuite on pouvait voir quand l'autre étoile était occultée, etc. Donc ça nous permettait aussi de pouvoir mesurer des diamètres d'étoiles. C'était les premières fois où on pouvait vraiment avoir accès à des caractéristiques physiques des étoiles, en fait.
Donc quand on regarde le ciel, on pense avoir une étoile, mais souvent elles sont deux, trois.
Exactement, tout à fait.
La première a été découverte dans les années 1600, au XVIIe siècle, vraisemblablement par Galilée. Elle s'appelle Mizar. Dans la constellation du Grand Ours, est-ce qu'on peut la voir avec des jumelles ou à l'œil nu? Qu'elle est double?
C'est très difficile à voir. Je pense que Galilée, il a peut-être plutôt eu une espèce de d'intuition, c'est possible, mais c'est très compliqué. Il faut vraiment avoir déjà un instrument d'observation, un télescope, un bon télescope pour pouvoir séparer les deux composantes de cette paire d'étoiles. Par contre, pour ce qui est de... Donc, c'est une paire, quand on parle d'étoiles binaires, c'est vraiment des étoiles qui sont physiquement liées par la gravité. C'est-à-dire que l'une tourne autour de l'autre. Souvent, il y a une petite étoile, puis une étoile plus grosse, et en fait, le système tourne autour de l'étoile la plus grosse, finalement, qui a un léger mouvement, mais assez faible. Tandis que vous avez aussi des étoiles, on parle plutôt de paires d'étoiles, par exemple Alcor et Mizar, qui sont très proches l'une de l'autre, mais en fait, en réalité, elles sont éloignées. C'est simplement le fait de la perspective qui fait qu'on a l'impression que ces deux étoiles sont très proches, mais en réalité, une est beaucoup plus éloignée que l'autre.
Voilà. Et puis, pour être complet, dans le système solaire, Jupiter aurait pu être une étoile si elle avait eu un petit peu plus de masse. Enfin, on parle de 10 à 13 fois plus. Hein.
Voilà, donc ça, effectivement, Jupiter est déjà une grosse planète gazeuse. Et c'est vrai que si elle avait eu plus de masse, entre 10 et 13, je ne connais pas le chiffre exact, hein, mais disons une dizaine de fois plus de masse, eh bien, elle aurait pu commencer au centre de cette planète. On aurait pu tout d'un coup avoir la possibilité d'avoir des réactions nucléaires avec des hautes températures. Et donc, un objet qui commence à briller par lui-même. Et c'est ce qu'on appelle une étoile. D'ailleurs, il faut quand même relever que Jupiter rayonne un peu plus de lumière que ce qu'elle ne reçoit du Soleil, parce que du fait de sa taille, il y a quand même certaines réactions qui peuvent avoir lieu au centre. Et ce n'est pas des réactions nucléaires, mais il y a des phénomènes qui peuvent se produire au centre de cette planète qui fait qu'elle va émettre un tout petit peu plus de lumière que ce qu'elle ne reçoit du Soleil.
On aurait pu avoir un Soleil permanent avec le Soleil et Jupiter, mais voilà, c'est la science-fiction du système solaire. Il y a eu, ça fait quelques jours, quelque chose d'assez, pas exceptionnel, mais disons, l'explosion d'une supernova à 21 millions d'années-lumière. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ?
Alors, une supernova dans la galaxie M101, donc toujours le catalogue de Messier, le 101e objet, qui est ce qu'on appelle la galaxie de la roue du char. Et effectivement, on avait déjà découvert une supernova dans des galaxies. Hein. On en découvre même assez régulièrement des supernovas dans des galaxies. Mais là, c'est une galaxie qui est assez proche, qui se trouve dans le groupe local où se trouve également notre galaxie. Et c'est quelque chose d'assez impressionnant. On peut la voir à l'œil nu, du coup, cette supernova. Elle brille, on pourrait dire, elle brille autant que la galaxie pendant quelques jours. Donc, c'est vraiment un phénomène absolument gigantesque, ces supernovas. Elles dégagent une énergie absolument phénoménale, puisqu'elle, en quelques jours, elle est capable de briller autant que les milliards d'étoiles qui forment cette galaxie.
Donc supernova, c'est une étoile en fin de vie qui explose.
Alors, il y a différents types de supernovas. Il y a plein, en fait, de types de supernovas. On a raffiné maintenant tous ces types. Mais essentiellement, si on veut simplifier, il y a les supernovas de type 2 qui sont en fin d'une grosse étoile. Elle explose en supernova, il y a tout qui est détruit. Et puis, il y a les supernovas de type 1A, plutôt, qui sont plutôt une paire d'étoiles, justement, puisqu'il y en a beaucoup de ces paires d'étoiles. Et puis, une paire d'étoiles avec une étoile qui évolue plus vite que l'autre, elle se transforme en naine blanche. Et puis ensuite, il y a l'autre étoile à côté qui va évoluer, qui va se devenir tout d'un coup une géante rouge. Donc, il y a toute la matière de la géante rouge qui va tomber sur la naine blanche. Et puis, ça va faire une couche d'hydrogène à la surface de la naine blanche qui va augmenter. Puis à un moment donné, on va atteindre une limite. Tout cet hydrogène accumulé va d'un coup fusionner pour donner de l'hélium, et ça va faire une gigantesque lumière, et c'est ça ce qu'on appelle les supernovas de type 1A. Donc, il y a encore des supernovas de type 1B, 1C, 2, et puis il y a même des nouveaux types de supernovas qui sont encore découverts de temps en temps.
C'est dangereux pour nous ?
C'est pas dangereux quand c'est dans une galaxie, mais quand c'est dans notre propre galaxie, si c'est trop près, on parlait par exemple de Bételgeuse, une des étoiles de la constellation d'Orient, qui aurait pu, qui est en fin de vie, on sait qu'elle est en fin de vie, elle avait quelques
soubresauts
étonnants, on pensait que ça allait venir, mais effectivement, si c'est Bételgeuse, ça pourrait être dangereux. Ça dégage une telle quantité d'énergie et de rayonnement qui pourrait être dangereux pour la Terre. Il faut comprendre que dans une galaxie, en moyenne, il y a environ 4 une supernova tous les 400 ans. Donc, c'est quand même pas tous les jours, mais Ça peut arriver. Et la dernière, c'était autour de 1600. Donc, on attend une supernova qui pourrait peut-être un jour arriver.
Statistiquement, c'est pour bientôt. Voilà. Bételgeuse, grosso modo, 450-500 millions d'années-lumière. 450 à 500 années-lumière, ouais, par rapport à la supernova dont on parle maintenant, qui est à 21 millions d'années-lumière.
Ouais, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Et puis, en fait, si vous regardez ce point, ben, comme quand on regarde le ciel, vous regardez dans le passé, et l'explosion qu'on est en train de voir aujourd'hui au mois de mai, elle a passé, ça fait 21 millions d'années.
Ouais, effectivement, c'est clair.
Merci Stéphane pour ces informations intéressantes pour le mois de juin.
Mais avec grand plaisir.
Un bel été et puis on se reverra à la rentrée pour le ciel de mois d'août ou septembre. On verra. Merci.
Au revoir.
Au revoir.